parler tout l'été.
Et oui, 100% parler tout l'été. On adore vous tenir au courant de sujets importants de la société. Puis on va en aborder un avec Mylène Moisan, chroniqueuse au journal Le Soleil. Pascal, je pense que les gens commencent à me connaître, commencent à nous connaître. On est très touchés par les gens qui n'ont pas des chances égales dans la vie.
Oui, parce qu'on est conscient qu'on a peut-être eu beaucoup de chance, que ce soit, oui, dans le bien matériel, mais surtout au niveau de l'amour, de l'encadrement. Tu sais, d'apprendre des choses à son enfant, c'est une forme d'amour spectaculaire qui l'aide pour la suite de sa vie.
Moi, je viens de rire de mon père avec angine de poitrine, qu'on ne comprend pas le phénomène, mais sans le daron, tiens, je vais prendre un langage d'ado.
Non,
c'est parce que mes ados m'appellent comme ça maintenant. Le daron. Alors, sans mon daron, je ne sais pas ce que je serais devenu. Parce qu'il y a plusieurs choses que j'ai pas fait dans ma vie parce que je voyais la face de mon père dans ma tête. Puis là, je me disais, va pas là.
C'est niaiseux, mais juste ça.
Va pas là. C'est parce que je ne voulais pas perdre sa confiance. Je ne voulais pas perdre l'estime qu'il avait de moi. Je trouvais ça important. J'avais un bon encadrement familial. Puis encore aujourd'hui, son grand-parent puis sont assis sur des petits bancs de bois à un terrain de baseball pour voir leur petit-fils évoluer. Ils vont jouer au golf avec leur petit-fils, sont assis dans tous les arénas l'hiver pour voir.
C'est un soutien tangible qui parfois n'est pas nommé.
Ben oui.
Il n'est pas évident à voir, il est tout le temps là. Puis il y a des gens qui ont personne, qu'il arrive quoi que ce soit, ils ne savent même pas qui appeler.
Exactement. Imagine, mes gars de 16 et 18 ans ont la chance d'avoir papa derrière le banc qui est coach, mais surtout maman des estrades avec la grand-mère maternelle, puis la grand-mère puis le grand-père paternel dans les estrades.
C'est d'une grande richesse.
Et s'ils ne sont pas là, ils les cherchent. Ils ont 16 et 18 ans. Si mes parents ont le malheur d'arriver 2 minutes en retard à la game, Edouard ou Elliot vont me regarder et vont dire « Papi, mamie, comment ça, ils ne sont pas là? »
Il est arrivé quelque chose.
Il est arrivé de quoi? T'as-tu un message sur ton cell? Puis Edouard, dès que le match finit, il a 16 ans, il me dit toujours, moi, je coach, faut que je parle aux joueurs après la game dans les estrades. Il me dit toujours, dans la chambre, il me dit toujours, attends 2 minutes, ben, m'en aller parler à papi et mamie.
Tu sais, ça, c'est, pour des games de hockey, c'est un soutien indéfectible.
Ben oui.
Puis en arrière de ça, c'est aussi plein de têtes différentes, avec des vécus différents, avec des apprentissages possibles différents. Avec une possibilité d'obtenir un soutien dans n'importe quelle situation. Mm-hmm. Puis c'est un sentiment de jamais se sentir seul.
Vraiment.
C'est pas tout le monde qui a ça.
Non, c'est pas tout le monde qui a ça. Et surtout pas les 3 jeunes de la série de textes de Mylène Moisan, chroniqueuse pour le journal Le Soleil. Mylène, faut que je te le dise, tu m'as fait sortir les émotions. J'ai les yeux dans l'eau quand je lis tes chroniques.
Oui, ça arrive. Je l'entends quelquefois.
Oui, c'est
Même moi,
fou.
Ça m'arrive quand un des portraits que j'ai fait sur Alicia, quand j'ai fini de l'écrire, moi-même, j'étais...
Ben, parlons-en justement d'Alicia, parce que ça m'a fendu le cœur. Mère de 15 ans qui est avec un homme violent. Alicia se retrouve à se promener d'un endroit à l'autre, tombe enceinte elle aussi à un jeune âge, vit dans la rue. Ouf, on l'a échappé, la DPJ, celle-là.
Oui, vraiment, vraiment. T'sais, petite fille de 3 ans, donc elle était avec sa mère de 15 ans pendant 3 ans. Et là, écoute, à 18 ans, sa mère devient adulte. Et là, la DPJ s'en occupe pas parce que la DPJ s'occupait de la fille-mère. Mm-hmm. Mais une fois qu'elle est devenue adulte, ben là... C'est fini.
C'est ça.
Donc là, la petite Alicia, 3 ans, ça commence en famille d'accueil, 3 ans et demi dans une autre famille d'accueil. T'sais, évidemment, c'est une fille qui est blessée. Et là, foyer d'accueil, centre de réadaptation. Et là, c'est ça. On la traite vraiment comme un cas problème. Il y a des salles d'isolement. Elle est vraiment pas bien. Elle n'a jamais eu d'aide non plus.
Le titre m'avait déjà fendu en deux. J'avais un sac à dos et un toutou. C'est tout.
Mais
c'est
on la comprend-tu d'être désorganisée dans une situation comme ça? Puis probablement qu'elle est encore plus ostracisée parce qu'elle est désorganisée.
Oui. Oui.
C'est capoté, là. C'est juste une roue qui s'enchaîne.
Mais c'est ça, tu n'as rien envie. Tu es un petit sac. Le message que la société t'envoie, c'est que tu ne vaux pas grand-chose.
Mais non, tu mérites presque juste ça.
C'est ça. Là, elle a justement, parce que quand elle arrive à 18 ans, elle fait des fugues à répétition. Elle arrive à 18 ans, elle revient d'une fugue à 18 ans, on lui dit ciao, bye!
Mm-hmm. Ben, c'est souvent comme ça que ça finit. Dans 2 des 3 cas que je présente, les portraits, c'est ça qui est arrivé. T'sais, c'est tellement des endroits, les centres de réadaptation, où est-ce que, justement, ça ressemble beaucoup à des prisons. Les gens qui s'occupent de toi, c'est des travailleurs, c'est des employés. Ils peuvent être très, très dévoués, mais c'est pas des parents, c'est pas des gens qui vont t'envoyer. Il y a quelque chose de très, très froid dans un centre de réadaptation. Donc, puis beaucoup, beaucoup de coercition. Donc, les jeunes, ils ne sont pas bien là. Souvent, ce qu'ils cherchent à faire, c'est toujours de s'en aller, de fuir. Et là, souvent, ça finit comme ça. Ils fuguent une semaine avant leurs 18 ans, puis ils se donnent même plus la peine de les chercher, puis c'est débrouille-toi maintenant dans dans vie. Là. C'est dans le cas de Mike, le premier. Lui, là, quand il est sorti, il n'y avait même pas de carte d'assurance maladie. Personne n'avait montré ça. Personne n'avait montré à faire une demande d'aide sociale.
Ce qui est la base dans notre tête, tu sais, qu'on se dit, mon Dieu, on n'a même pas pensé que nos parents nous ont fait faire
J'aurais
ça.
J'aurais le goût de prendre Mike dans mes bras, de le serrer et de dire, viens-t'en, mon petit loup, je vais faire ta carte d'assurance maladie.
Parce qu'il doit être dépouillé juste au moment où on lui a demandé peut-être son identité dans la vie en disant, comment je fais ça, moi, montrer mon identité. Imagine comment on part de loin. Puis j'entendais cette enfant-mère, là, je la considère comme une enfant-mère. Elle n'a aucune ressource, fait qu'elle donne rien à son enfant aussi. Elle donne l'amour qu'elle peut. Puis ça, c'est selon l'amour qu'elle a appris. Il y a, y a ça aussi à prendre en compte. Là, on est rendu à deux cas, juste avec l'enfant mère et sa fille.
C'est ça, parce qu'il faudrait que ces gens-là aient plus de ressources que moins. Il faudrait en amont, avant justement que ça explose à l'adolescence, parce que c'est évident, si tu te ramasses à l'adolescence en centre de réadaptation, ça ne peut pas comme bien finir. Donc, il faudrait vraiment... Tu as un enfant qui est traumatisé comme Mike. Écoute, sa mère était droguée quand il est né. Il est né en sevrage de drogue. Il faudrait qu'en partant, cet enfant-là, là, tu le bichonnes, tu le mettes dans la meilleure famille, que tu le suives, que tu aides à la limite ses parents. Mais cet enfant-là, tu dis, lui, là, les chances qu'il finisse moins bien que tes ados ou les miens sont pas mal plus grandes. Fait que, comme société, on serait gagnant à mettre des petits drapeaux sur ces gens, sur ces jeunes-là pour éviter qu'ils se ramassent en centre de réadaptation. Centre de réadaptation, c'est correct. À la limite, il y a des délinquants, mais je suis sûre qu'il y aurait comme vraiment beaucoup moins de jeunes en centre de réadaptation si ces jeunes-là pouvaient avoir de la thérapie, de l'aide. Alicia puis Mike, là, ils ont eu zéro thérapie, zéro aide pendant toute leur parcours.
Ils ont pensé que c'était ça, la vie.
Ben oui, mais tu sais, puis Mike, lui, il a eu ses diagnostics là, il y a 25 ans. Il a eu ses diagnostics l'année passée. Et là, il est full de professionnels, de thérapie. Là, ça va mieux, il contrôle sa consommation. Évidemment, il y a de la dépendance dans lui. Ses parents étaient dépendants.
Imagine si on avait fait ce diagnostic-là s'il avait eu 7 ou 8 ans.
Exact.
Comment on aurait pu aider ce jeune-là? Parce que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on le pitchait dans des salles d'isolement. Là. C'est ce que tu racontes. Puis là, je me dis, OK, comment, comme société, on en vient à prendre un enfant qui est né de parents qui avaient des problèmes de consommation? Lui, il est né, il est en sevrage de drogue. Puis 13-14 ans plus tard, que la solution, c'est en salle d'isolement.
Mais c'est parce que c'est dur. C'est des gens qui ont des comportements parfois violents. C'est des jeunes qui ne se gèrent pas. C'est des jeunes qui, chaque minute, peuvent changer d'état, d'humeur. Ils se comprennent pas. C'est tellement dur qu'à un moment, c'est vrai que pour les intervenants, c'est avant que moi, je me désorganise, puis j'augmente en fait la détresse de la personne devant moi, je vais l'envoyer en isolement. Mais
Vince le racontait, t'sais, il a vu là, des choses, des portes arrachées, puis il disait, moi, c'est sûr que les intervenants, c'est pas un travail qui est agréable, c'est très, très difficile. Mais c'est un peu comme une suite logique d'avoir ces comportements-là quand tu as le passé qu'ils ont. Donc, c'est un peu ça. Là, on leur dit, t'es rendu un délinquant, mais peut-être qu'il ne serait pas un délinquant, c'est plus tard. Mais là, tu es rendu un délinquant. Fait que là, organise-toi. Puis là, écoute les règles. Puis là, fais ça comme il faut. Puis là, tu as juste à vouloir t'en sortir. Puis tu as juste à vouloir. Mais c'est plus ça, là, rendu là. Ils sont brisés.
Bien, c'est parce qu'ils ont tellement de frustration interne que ça sort. Puis à l'adolescence, on le sait. Tu as déjà un combat hormonal. Fait que tu ne sais pas trop comment gérer tout ce que tu as en dedans.
Comment il disait, comment tu veux faire confiance? Confiance à ceux qui te mettent en isolement, c'est toujours de la coercition, c'est toujours de la punition, c'est toujours... Puis ils te disent, aide-toi, aide-moi comment, ils ne savent pas. Ils n'ont personne qui a appelé. Ils peuvent pas appeler les autres Clic Santé, prendre un rendez-vous, santé mentale. Je veux dire, ils n'ont aucune liberté. Toute leur vie est calculée, ils n'ont aucun libre arbitre. C'est quelque chose. Là.
Ce qui me fait de la peine aussi, c'est que pour beaucoup, parce que là, j'étais tombée sur TikTok, puis je ne sais pas comment ça s'est ramassé là, mais j'en avais parlé à Jeff. C'est rendu que dans les centres pour jeunes, donc les centres de jeunesse, le téléphone est là pour certains. Si ça rentre en prison, on peut comprendre quand centre de jeunesse s'est rentré. Puis ils font des vidéos, puis ils montrent un peu dans quoi ils vivent. Fait que là, ils se font en plus appuyer dans le fait que ça fait pas de sens parce que c'est pas super chaleureux. Fait qu'ils se désorganisent encore plus, ils se criminalisent, ils deviennent violents, fâchés contre l'aide qu'ils pourraient avoir.
Contre le système. Là. Ben, tu sais, Mike, lui, à un moment donné, il avait son dossier traînait sur une table, puis il a regardé dans le dossier, puis il a vu que sa mère était atteinte du cancer, puis que, tu sais, son cancer était incurable. Mais personne n'y a dit.
Ben, imagine.
S'il l'avait pas vu, là, il l'aurait pas su. Puis là, il ne pouvait pas leur dire qu'il l'avait vu parce qu'il se ferait punir d'avoir regardé dans son dossier. Fait que là, il a fallu attendre un jour que là, il a eu repris contact avec sa mère, mais après ça, il est décédé juste 2 ans après.
Mylène,
il a juste
eu 2 ans. Peux-tu poser une question? Tu suis beaucoup ces dossiers-là. Selon ton analyse, tes chroniqueurs, je peux te poser. Qu'est-ce qui manque? Où est-ce qu'il manque quelque chose? Parce que les intervenants, pour beaucoup, la majorité, ils font tout ce qu'ils peuvent. Mmh. C'est des personnes qui font des jobs que bien du monde ne ferait pas. Ces jeunes-là sont malheureusement un peu dans la prison de la maltraitance là, depuis un bon bout. Où est-ce qu'on devrait attaquer les choses?
Bien, c'est beaucoup, beaucoup de il y a beaucoup de choses à travailler. Mais c'est, on le répète tout le temps, là, c'est la première ligne. C'est des services tôt. Soit dans le communautaire. Le communautaire, c'est extraordinaire. Puis moi, je comprends pas pourquoi le gouvernement fait pas plus de liens que le communautaire. Tu sais, la pédiatrie sociale, tous les organismes qui existent, les maisons de la famille. Tu sais, sont tout le temps en train de faire des campagnes de financement, de vendre des biscuits pour financer leurs services. Mais ça, là, si c'était un vrai réseau où est-ce que des enfants en difficulté pouvaient aller, parce que quand tu arrives à la DPJ, c'est judiciarisé souvent. Fait que t'as toujours un côté, t'as le tribunal, c'est froid. Les intervenants aussi, tu sais, ils sont dans une administration, ils ont des règles. C'est très, tout est formel, beaucoup de formalités. Mais alors qu'au communautaire, c'est plus, tu sais, le lien de confiance est plus facile à établir. Fait que moi, je pense qu'il faudrait vraiment plus aller vers le communautaire, puis aussi s'assurer que les enfants qui sont pris en charge par la DPJ, c'est, tu sais, des fois, c'est un peu des situations là, où est-ce que la DPJ n'aurait pas besoin d'intervenir. Mm-hmm. Tu sais, des fois, c'est des parents, ils traversent une mauvaise passe, ils ont besoin de répit, ils demandent de l'aide. Bien là, ils devraient avoir de l'aide au lieu d'embarquer dans la machine de la DPJ. Puis là, tu arrives avec une intervenante qui est peut-être pleine de bonne volonté, mais qui va mal orienter le dossier. Puis des fois, ça peut complètement dégénérer un dossier qui aurait pu être très, très simple au début, juste à être réglé avec
ça
des services.
Ça prend du temps au sein de la DPJ pendant que ça prend
d'autres dossiers. S'il y avait des super nannies qui allaient aider concrètement les parents, tu sais, il y en a un peu là, des causes perdues, comme les parents de Mike, là, tu te dis, eux autres, il faut t'enlever l'enfant.
Ouais, oui.
Mais tu sais, il y en a, sont à bout, sont fatigués.
Qui n'ont pas eu les outils eux-mêmes dans leur jeunesse.
Exactement, je veux dire, on va s'organiser. Tu sais, ça pourrait... C'est Pauline Marois qui avait déjà suggéré ça, d'avoir des super nannies. Ça a l'air un peu caricatural, mais ça pourrait aider des gens concrètement qui viennent chez toi puis qui t'aident à t'occuper de tes enfants, gérer un horaire, gérer les crises. Ça pourrait être des solutions.
Je trouve tellement que tu as des belles pistes de solutions, Mylène. Continue à écrire sur les enfants de la DPJ. Continue à nous faire vivre leur histoire. Je suis certain que ça conscientise beaucoup de gens. Ça met de la pression sur la DPJ, ça met de la pression sur le gouvernement. Puis moi, avec ton idée des organismes communautaires, je proviens des organismes communautaires, je suis tellement d'accord avec toi. Donc, merci beaucoup de ton passage en studio.
Ça fait plaisir.
On s'en reparle bientôt.
Yes.
Cool. Salut, Mylène Moisan, chroniqueuse pour le journal Le Soleil. Elle écrit des textes exceptionnels. Lisez-les dans le journal Le Soleil. Il nous reste un petit 3 minutes, Pascal. Il faut absolument parler de ceci.